Accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
The coronavirus has changed life as we know it, but how did we go from zero cases to having more than any other country?
Bonjour à tous. L'Europe à l'heure de la cinquième vague, alors que l'OMS redoute 700 000 morts supplémentaires d'ici au printemps. Les restrictions se multiplient sur le continent, foyer principal actuel du Covid-19. Et d'abord en Autriche, premier pays à être confiné pour la quatrième fois depuis lundi. Une mesure radicale annoncée en même temps qu'une autre, et sans équivalent pour l'heure en Europe, une obligation de se vacciner contre le Covid-19 qui vaudra pour toute la population à partir de février prochain. Et vous allez l'entendre, les Autrichiens accueillent tout cela avec pas mal de colère. Le reportage à Vienne de Céline Béal.
À l'Austria Center, un centre des congrès transformé en centre de vaccination. Gudrun, employée de 42 ans, est venue pour son troisième vaccin anti-coronavirus. Un rappel qui est recommandé pour tous en Autriche. Elle est déçue que ceux qui sont vaccinés ne soient finalement pas dispensés de confinement, comme le gouvernement avait tenté de le faire.
Le confinement seulement des non-vaccinés, c'était difficile à organiser. Mais que maintenant nous devions tous payer pour eux, c'est compliqué de l'accepter.
Petra, femme au foyer de 53 ans, faisait jusqu'aujourd'hui partie de ces non-vaccinés. Elle avait peur des effets secondaires. Suite aux dernières mesures, elle s'est résolue, mais ne cache pas sa colère.
On n'a pas le choix, c'est comme ça, malheureusement. Mais je n'en pense rien de bon, parce que je trouve quand même que tout ça dérive en dictature. Chacun devrait être responsable de soi-même et de ses décisions. Mais malheureusement, en Autriche, les gens tolèrent de se laisser marcher dessus par le gouvernement. Et ça, c'est grave.
Parmi les centaines de candidats à l'immunisation qui se pressent sur le parvis de l'Austria Center, la tension est palpable face à ce tour de vis du gouvernement. Comme pour ce manager dans le domaine de l'informatique, 42 ans, venu pour sa troisième injection.
Lors du premier confinement, tout le monde était compréhensif. On ne connaissait pas encore le virus et on comprenait qu'il fallait prendre des mesures. Mais ça n'a plus été le cas pour les deuxièmes, troisièmes et maintenant quatrième confinement. Le chaos est total. Le gouvernement a complètement échoué. En fait, c'est un aveu d'échec du gouvernement qu'on en arrive là. Personne ne s'y retrouve dans les mesures. Moi-même, j'ai un enfant, on ne sait pas si on peut le mettre à l'école. Un ministre prend une décision, un autre revient sur cette décision. Le chaos est absolu. Moi, j'attends que le gouvernement fasse enfin son fichu travail.
La question des écoles cristallise le mécontentement. Car contrairement au confinement précédent, les classes restent ouvertes. Mais il est conseillé aux parents de ne pas y amener leurs enfants. Cours à distance, cours en présentiel, beaucoup plaident pour plus de clarté. Dans une école du 20e arrondissement, Myriam Kollmann, enseignante, témoigne.
Il y a une blague qui circule sur Internet que je trouve très juste. Sur une image, on voit le ministre de l'Éducation, quelqu'un lui pose la question « Monsieur Fassmann, les écoles sont-elles actuellement ouvertes ou fermées ?» Et il répond « Oui ». Cela correspond bien à la situation. Nous sommes certes confinés, mais les parents se sentent livrés à eux-mêmes. Il y a une sorte de congé spécial qui existe pour que les parents puissent rester chez eux et s'occuper de leurs enfants. Mais la plupart ont déjà épuisé leurs droits depuis le début de la pandémie. Beaucoup de parents ne sont pas en télétravail actuellement et ils ne peuvent pas garder leurs enfants à la maison. Donc les enfants vont à l'école.
Dans les premiers jours du confinement, 70% des enfants du pays ont été envoyés à l'école en moyenne. Résultat, le virus continue de circuler. 4 des 16 classes de l'école de Myriam Kollmann ont dû fermer temporairement car lorsque deux enfants d'une même classe sont contagieux, c'est toute la classe qui est envoyée en quarantaine. Barbara Preinsack, directrice de l'Institut de sciences politiques de l'Université de Vienne, a réalisé deux études d'opinion auprès des Autrichiens depuis le début de la pandémie. Selon elle, ce quatrième confinement ne passe pas parce qu'une majorité de ses compatriotes a le sentiment qu'il aurait pu être évité.
La raison plus profonde est aussi que la pandémie dure maintenant depuis très très longtemps. Beaucoup sont très fatigués et démoralisés, ils n'ont plus d'énergie. Et puis certains responsables politiques ont en outre toujours affirmé que la vaccination ne serait pas rendue obligatoire. Et maintenant elle va l'être. Donc la situation est très tendue en ce moment.
Ces derniers jours, le rappel à l'ordre du gouvernement a entraîné un sursaut du nombre de vaccinations. Mais pour beaucoup, il s'agit de personnes déjà vaccinées qui ont fait leur troisième injection. Le nombre de personnes non vaccinées qui passent le pas, lui, ne semble pas évoluer beaucoup une fois ce court sursaut passé.
Covid, killer, 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 killer.
Et ailleurs en Europe, pour faire face à la hausse des cas de Covid-19, la Slovaquie a elle aussi annoncé un confinement partiel de 2 semaines. L'Irlande, elle, est pour l'heure très réticente à reconfiner sa population. Le gouvernement vient d'annoncer des restrictions à minima et fait preuve d'une certaine cacophonie. Les explications à Dublin d'Emeline Vin.
Malgré un taux d'incidence très élevé sur 15 jours, plus de 1000 pour 100 000 habitants, l'Irlande en appelle à la responsabilité de chacun. Avec de nombreux messages... Un jour, c'est le médecin-chef du pays qui demande aux Irlandais de réduire de moitié leurs interactions sociales. Le lendemain, c'est le ministre de la Santé qui recommande de ne pas aller en boîte de nuit 3 fois par semaine. La semaine passée, le gouvernement a tout de même réimposé certaines restrictions, c'est vrai. Couvre-feu à minuit pour le secteur de la nuit, vaccination obligatoire pour aller au théâtre ou au cinéma. Le télétravail, quant à lui, est de nouveau recommandé autant que possible, mais sans obligation pour les employeurs. Le traçage des cas contacts, allégé depuis plusieurs semaines, est rétabli pour les foyers épidémiques au sein des écoles. Ces clusters sont en partie tenus pour responsables de la hausse des contaminations. Le gouvernement pourrait également subventionner les tests antigéniques pour inciter davantage d'Irlandais à se dépister en l'absence de symptômes. Comme l'hiver dernier, Dublin compte sur la volonté collective pour célébrer Noël en toute sécurité et sur l'excellent taux de vaccination, le meilleur de l'Union européenne. En plus, l'exécutif sait bien que la population n'accepterait pas un 4e confinement, alors que l'Irlande a été mise sous cloche en tout 11 mois depuis le début de la pandémie, l'une des plus longues durées d'Europe. Et puis confiner, ça veut dire aussi indemniser. Or, depuis mars 2020, le gouvernement a dépensé plus de 15 milliards d'euros d'aide aux employés et aux entreprises.
Et si l'Irlande a le meilleur taux de vaccination contre le Covid-19 en Europe, en Ukraine, seuls 25% de la population est doublement vaccinée. Dans ce pays d'Europe de l'Est, en plus des 600 à 800 décès chaque jour dus à la pandémie, les autorités se battent donc avec un autre phénomène, celui des réticences de la population à se faire vacciner. Les faux documents et les stratégies d'évitement se multiplient pour éviter de passer à la case piqûre. À Kiev, notre correspondant Stéphane Sioran.
Au début de la vague Delta, l'Ukraine était le pays le moins bien vacciné d'Europe, avec seulement 12% de la population ayant reçu 2 doses. Depuis, les centres de vaccination se sont remplis, mais à ce jour, seulement 25% de la population est entièrement vaccinée. D'après les sondages, 56% des Ukrainiens ne souhaitent pas se faire vacciner, un phénomène qui s'explique, à l'instar d'autres pays post-soviétiques, par un niveau de confiance très bas dans les institutions d'État, même au sein du corps médical. Résultat, beaucoup de gens font confiance à leurs proches, aux leaders d'opinion, aux vérités alternatives qui circulent sur Facebook, Telegram ou Viber. Plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens auraient acheté des faux certificats de vaccination. Obtenir un code QR sans passer par la case piqûre, c'est un véritable jeu d'enfant. Des dizaines de chaînes Telegram proposent ce genre de service contre une somme allant de 20 à 200 euros. Des hackers ont également reproduit le système DIA, l'application mobile du gouvernement utilisée par 10 millions d'Ukrainiens, qui permet de numériser ses papiers d'identité et d'obtenir des certificats de vaccination. La police a ouvert 500 enquêtes sur des filières clandestines et le ministre de la Transformation numérique, Mikhailo Fedorov, a même invité un jeune faussaire de 21 ans, poursuivi par la justice, à rejoindre son équipe afin d'améliorer la protection des données médicales. Maintenant, après avoir manié le bâton, le gouvernement s'apprête à sortir la carotte. Il a promis une prime de 35 euros à tous les doubles vaccinés, une somme non négligeable qui sera versée dès le jour de la Saint-Nicolas, le 19 décembre, alors que l'on s'attend à un nouveau pic de contamination au milieu du mois de janvier.
Alice Rouja, vous revoilà en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On l'a vu ces derniers jours, le retour des restrictions et des mesures sanitaires drastiques suscite le mécontentement avec des manifestations parfois violentes en Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique. Et dans ces rassemblements, Alice, il y a une forte représentation des jeunes de 18 à 30 ans.
C'est vrai que des jeunes, on en trouve aussi parmi les manifestants européens anti-mesures sanitaires. Vous l'avez dit, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, beaucoup de jeunes adultes s'opposent aux restrictions qu'ils trouvent trop autoritaires, voire, osons le dire, dictatoriales. Selon un sondage IFOP en France, parmi les 35% de la population qui soutient le mouvement, la moitié a moins de 35 ans. En fait, cette jeunesse contestataire, bien que protéiforme, elle a quelque chose du mouvement des Gilets jaunes qui avait d'ailleurs essaimé un peu partout en Europe à l'époque. On était en 2019. Un mouvement de jeunes précaires, mais pas que. On trouve aussi des cadres ou des professeurs qui ont subi la pandémie et ne font définitivement plus confiance aux politiques et institutions, avec soif de liberté. Il y a 2 semaines, un manifestant de 26 ans est arrêté par la police de Lucerne, en Suisse. En sortant de garde à vue, il déclare à la presse « Nous sommes un mouvement des droits civiques ».
En Allemagne, les membres de ce mouvement ont d'ailleurs un nom, ce sont les Querdenker.
J'aurais beau essayer, je le prononcerai jamais aussi bien que vous, Léa Lisa. Querdenker, ça veut dire les libres penseurs. Ils manifestent presque toutes les semaines depuis l'été 2020, le début de la pandémie. Ils s'opposaient au port du masque. Aujourd'hui, les revendications se sont étoffées, évidemment. Ils sont peu, environ 100 000 dans tout le pays, mais ils font beaucoup de bruit.
Et chez ces manifestants, il y a des groupuscules violents avec des jeunes entre 20 et 30 ans.
Oui. Et des partisans des extrêmes politiques de gauche comme de droite, parce que les partis d'extrême droite ne se privent pas de surfer sur la vague. Non mais, sans aller jusqu'à dire que tous les jeunes anti-mesures sanitaires sont d'extrême droite, loin de là, faut quand même souligner une chose, c'est qu'ils sont de plus en plus libéraux.
C'est-à-dire ?
Je m'explique. Un des principaux arguments contre la vaccination, c'est « Pourquoi est-ce que je me ferais vacciner ?» si je ne suis pas susceptible de contracter une forme grave du virus et que le public cible, ce sont les plus de 60 ans. Derrière ce questionnement et cette réticence, il y a quelque chose d'individualiste, qui ne voit pas l'utilité du fait social. Dans le livre « La fracture » de Frédéric Dabi, directeur de l'Institut de sondage IFOP, on découvre que chez les 18-30 ans, 6 sondés sur 10 ont une vision positive du libéralisme et une défiance grandissante vis-à-vis de l'État.
Alors évidemment, extrême droite, défiance des politiques, tout ça, c'est alimenté par des infos parfois douteuses sur les réseaux sociaux.
Eh oui, n'oublions pas que nous sommes en pleine pandémie et que les théories du complot et les fake news circulent abondamment. Sur Instagram, il y a beau avoir un petit bandeau, consulter le centre d'information pour des ressources sur le vaccin et le Covid, bah, ça touche quand même pas mal de jeunes. Rappelons qu'ils sont 80% à utiliser les réseaux sociaux. Et même les enfants. Selon NewsGuard, c'est une extension de navigateur qui indique notamment la fiabilité des sites. Sur les 9 millions d'utilisateurs TikTok qui ont visionné des vidéos disant globalement n'importe quoi sur la vaccination et l'origine du virus, il y avait des enfants de 9 ans.
Heureusement, tous les jeunes ne sont pas complotistes.
C'est clair. En fait, ils sont souvent mieux armés que leurs aînés. D'après une enquête effectuée par l'UNICEF au Monténégro, les jeunes croient à 19% aux théories du complot contre 34% des adultes. En tout cas, qu'ils soient influencés par les réseaux ou non, les jeunes contestataires disent stop aux mesures de privation des libertés dans un contexte social tendu. Avec la pandémie et sa gestion, la coupe est pleine.
Merci Alice Rougeat. On vous retrouve jeudi prochain avec votre chronique C'est mon Europe. Direction la Turquie à présent. Hier, 46 personnes comparaissaient à Istanbul. Leur point commun, beaucoup sont des frères, des sœurs, des fils ou des filles de personnes disparues en garde à vue dans les années 80 et 90, dont les familles n'ont plus jamais eu de nouvelles. Depuis 95, elles se rassemblaient chaque samedi pour manifester en silence et réclamer à l'État la vérité sur le sort de leurs proches. Mais désormais, leurs rassemblements sont interdits et ces familles se retrouvent même sur le banc des accusés. À Istanbul, le reportage d'Anne Andloer.
Depuis 41 ans, en Turquie, une famille remue ciel et terre pour savoir ce qui est arrivé à Hayrettin Eren, placé en garde à vue au lendemain du coup d'état militaire du 12 septembre 1980. La version officielle, rien. Hayrettin n'a pas été arrêté, pas besoin d'ouvrir une enquête, encore moins un procès. Ses parents et ses frères et sœurs n'ont jamais cru à cette histoire. Ils ont vu sa voiture devant le commissariat, entendu ses codétenus raconter les tortures subies par le jeune homme. Voilà pourquoi, chaque samedi depuis 1995, il protestait en silence, assis à même le sol sur une place d'Istanbul, avec d'autres familles serrant contre leur cœur la photo de leur disparu et un œillet rouge dans la main. Le 25 août 2018, leur 700e rassemblement a été violemment dispersé. Il est désormais interdit et 45 personnes sont poursuivies pour violation de la loi sur les manifestations. C'est le cas de Faruk Eren, le frère de Hayrettin, et membre de ce groupe dit « des maires du samedi ». Il dénonce un procès politique.
C'est ridicule, nous avons organisé cette manifestation pendant 699 semaines sans jamais être poursuivis. Au contraire, notre mouvement de désobéissance civile est l'un des plus respectés de Turquie et du monde. Le pouvoir veut sans doute l'étouffer, c'est la raison de ce procès. Aujourd'hui, la moindre quête de justice est réprimée en Turquie. À travers nous, on essaie d'envoyer un message à toute la société.
Faruk Eren et ses co-accusés risquent jusqu'à 3 ans de prison. Privés de place publique, les familles comme la sienne veulent utiliser chaque audience pour parler de leurs disparus, crier leur nom et leur douleur.
Cela fait des décennies que nous voulions raconter notre histoire devant un tribunal, sauf que là, nous sommes sur le banc des accusés. C'est une situation absurde. Mais nous ne serons pas jugés, c'est nous qui allons juger. Raison pour laquelle je pense que ce procès ne durera pas. Les juges vont nous acquitter ou prononcer un non-lieu, ou alors nous condamner. Nous sommes en Turquie, après tout, le droit varie en fonction du climat politique.
Sebla Arjan, membre de la commission contre les disparus en garde à vue au sein de l'Association des droits de l'homme d'Istanbul, fait aussi partie des accusés. Pour elle, en s'attaquant à ses familles, le pouvoir s'attaque à un symbole.
Ces gens luttent pour la primauté du droit, là où la politique d'État en matière de disparition forcée a toujours été de nier la vérité et de protéger les coupables. Les familles n'ont jamais obtenu de réponse. On parle de centaines de disparus et pourtant le nombre de procès ouverts ne dépasse pas 15. 2 sont toujours en cours, les autres ont abouti à l'acquittement des accusés. Est-ce que c'est un problème qui ne concerne que les familles de disparus? Bien sûr que non. Si l'État accorde l'impunité à ses représentants lorsqu'ils commettent des crimes contre les citoyens, c'est la garantie de perpétuer de lourdes violations des droits de l'homme. Et c'est exactement ce qui se passe.
Engagée depuis des décennies, Sebla Arjan a été témoin des violations des droits de l'homme dans les années 1980 et 90. Les tribunaux militaires, les arrestations, les crimes extrajudiciaires. Mais ce procès qui vise aujourd'hui les familles de disparus illustre, à ses yeux, une forme de répression inédite en Turquie.
Je veux dire une chose, et ce n'est pas pour minimiser la gravité de ce qui s'est passé autrefois. Même à l'époque du coup d'État de 1980, les violations des droits n'étaient pas commises en pleine lumière comme elles le sont aujourd'hui. En fait, je ne me suis jamais sentie aussi peu en sécurité de toute ma vie. Je risque la prison parce que j'ai exercé une liberté fondamentale, une liberté que la Constitution me garantit en principe, la liberté d'opinion et d'expression. Dans cette société, personne ne peut prévoir ce qui va lui arriver. Et ça, c'est terrible.
Faruk Eren, le frère de Hayrettin Eren, dit en être certain. Pour les familles comme la sienne, la quête de vérité et de justice continuera. Les coupables sont parfois âgés, certains sont peut-être même morts, mais les archives de l'État conservent la mémoire des noms et des crimes. Les disparus ne le sont pas vraiment.
Bien sûr que l'État sait si nos proches ont été jetés à la mer ou enterrés quelque part, et la plupart des familles connaissent les noms des responsables. Alors oui, les parents vieillissent et meurent, mais il y a parmi nous des gens qui luttent au nom d'un père dont ils ne se souviennent pas ou d'un grand-père qu'ils n'ont pas connu. Nous sommes déterminés, nous ne renoncerons jamais à cette lutte parce que notre demande est extrêmement simple. Nous voulons une tombe pour nos proches, ce n'est quand même pas trop demandé.
Ne pas renoncer pour ces familles, cela veut aussi dire ne pas abandonner la rue, malgré la répression. Retourner bientôt sur la place où ils s'asseyaient depuis 26 ans. En attendant, c'est sur le parvis du palais de justice d'Istanbul qu'ils se retrouvent une fois de plus, avec la photo de leurs proches et un œillet rouge dans la main.
Accent d'Europe, Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site internet rfi.fr ou via notre podcast. À demain !